Le monde du jazz recèle de personnages singuliers qui ont marqué son histoire et poussé les frontières de la musique. Dans cette série, nous tresserons un portrait de Charles Mingus à travers des anecdotes marquantes sur sa vie, son œuvre et son parcours. Le personnage de Mingus est aujourd'hui légendaire. Drôle, fougueux et charismatique, il était aussi intimidant et intransigeant, avec un penchant tyrannique, un tempérament volatile et souvent violent. Mais l'on se souvient aujourd'hui de lui avant tout pour sa vision musicale unique. Bassiste virtuose, compositeur prolifique et chef d'orchestre accompli, Mingus est aujourd'hui considéré à juste titre comme un des plus grands artistes du XXe siècle. Pour répondre à la question qui est Mingus, commençons, puisqu'il faut bien commencer quelque part, par explorer son rapport à un autre grand artiste qui l'a beaucoup influencé, Duke Ellington. Je m'appelle Luxi Bright, et vous écoutez le programme Jazz Story sur Art District Radio. Une des caractéristiques de la philosophie musicale de Mingus est son attachement à la tradition, à son héritage musical, tout en maintenant une volonté d'explorer, d'expérimenter, de détourner, d'innover, et ce faisant, de transcender ces mêmes traditions. La musique de l'église qu'il entendait petit en accompagnant sa mère au service, la musique de la Nouvelle-Orléans, celle de Jelly Roll Morton et Louis Armstrong, et la musique de Big Band, le swing de Duke Ellington qu'il entendait à la radio. Un pied dans le passé donc, mais le regard fermement porté vers le futur. La formation musicale de Mingus s'est faite auprès des plus grands. Il naît le 22 avril 1922 dans l'Arizona et grandit à Los Angeles. Il commence par étudier le trombone et le violoncelle, mais réalise assez tôt que son désir de jouer dans la philharmonie de Los Angeles est compromise par la couleur de sa peau. Adolescent, il choisit donc le cousin plus large du violoncelle, la contrebasse, qu'il étudie avec Red Callender ainsi qu'un des membres de la philharmonie. Très vite, il démontre un talent prodigieux. Il se fait une réputation sur la scène de Los Angeles et en 1942, obtient sa première opportunité professionnelle majeure, jouant avec Barney Bigard, le clarinettiste longtemps associé au groupe d'Ellington et les All-Stars de Louis Armstrong. Au cours des années 40, il part en tournée avec Armstrong, il joue dans les groupes de Lionel Hampton et de Howard Magee et commence à enregistrer ses propres compositions. C'est à partir du début des années 50, après son passage par le groupe du vibraphoniste Red Norvo, puis son déménagement à New York, que Mingus commence réellement à être reconnu en tant que bassiste d'exception et compositeur en devenir. En 1953, deux excellentes opportunités se présentent à lui. Il joue avec Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Max Roach et Bud Powell lors du désormais très célèbre concert à Massey Hall, dont nous parlerons dans un autre épisode. Il est également invité à remplacer le bassiste Wendell Marshall dans l'orchestre de Duke Ellington. Mingus, alors âgé de 31 ans, accepte avec tout l'enthousiasme qu'on pourrait attendre d'un musicien qui va jouer avec son idole. Il l'écrit lui-même dans son autobiographie, Beneath the Underdog. C'est le héros, et c'est le groupe que tu ne quittes pas. Il imitait déjà Ellington sur plusieurs plans, allant jusqu'à s'appeler Baron Mingus sur des enregistrements de 1948 et 1949. Une opportunité en or donc, mais pourtant gâchée. Mingus sera renvoyé du groupe d'Ellington après à peine 4 jours. Que s'est-il donc passé? Ellington était-il si mécontent des performances de Mingus, au point de le virer après moins d'une semaine, lui qui pourtant ne mettait à la porte des musiciens qu'avec beaucoup de réticence? Non. C'est en réalité la fameuse colère de Mingus qui lui coûta son mandat aux côtés du grand chef d'orchestre. Juan Tisol, un tromboniste et compositeur portoricain, était un des piliers de l'ensemble d'Ellington. Dans son autobiographie, Mingus décrit comment, lors d'un concert, Tisol lui avait demandé de jouer une section qu'il avait écrite pour basse solo à l'archet. Mingus, pour des considérations liées au timbre de l'instrument, choisit de la jouer une octave au-dessus. À l'entracte, Tisol vient réprimander le bassiste et ajoute qu'il est comme tous les autres noirs dans le groupe, il ne sait pas lire. Mingus lui saute dessus, Tisol sort un couteau, et le bassiste riposte en arrachant du mur une hache à incendie. Le trompettiste Clark Terry prétend être celui qui sépara les deux bagarreurs. La véracité de cette version des événements est discutable, comme c'est le cas d'ailleurs pour toute son autobiographie. Plusieurs versions conflictuelles de cette altercation ont été relatées, Tisol prétendant par exemple qu'il n'y avait pas de couteau, et qu'il n'y avait eu aucune remarque raciste, ayant simplement dit que s'il avait voulu un violoncelliste, il aurait écrit pour violoncelle. En tout cas, cet incident persuada Ellington qu'il fallait se passer des services de Mingus. La description que fait ce dernier du discours charmant et éloquent tenu par Duke lors de son renvoi est extraordinaire. « Il me semble, Charles, dit-il d'un air amusé, tout en passant des boutons de manchette de chez Cartier au poignet d'une superbe chemise sur mesure, que vous auriez pu me prévenir. Vous m'avez laissé dans l'ignorance la plus complète de votre numéro. Vous auriez au moins pu me laisser plaquer quelques accords de soutien pendant que vous faisiez votre imitation de Nijinsky. Je vous félicite pour cette création scénique, mais pourquoi Joannez-vous ne m'avez pas dit que vous aviez mis au point cet adagio? Nous l'aurions mis en musique. Je dois reconnaître que je n'ai jamais vu un homme de votre gabarit faire preuve d'une telle agilité. En fait, je n'ai jamais vu personne capable de sauts aussi fantastiques. » Mingus a le rare privilège d'être un des seuls musiciens renvoyés directement par Ellington, lui qui évitait toujours cela si possible. Il paye donc le prix de son tempérament et de son inexpérience dans le groupe, Ellington voulant s'éviter de nouveaux soucis. « Joan est un vieux problème, dit-il, ça je peux gérer. Mais toi, tu es autre chose. » Mingus conclut en écrivant « Il vous a parlé de façon si charmante que vous avez l'impression d'avoir reçu des compliments. Vous vous sentez honoré, vous lui serrez la main et vous quittez l'orchestre. » Malgré cette première collaboration tumultueuse, les chemins de Mingus et Ellington se recroiseront 10 ans plus tard, lorsqu'ils enregistrent ensemble le célèbre et influent album « Money Jungle », en trio avec Max Roach. Thank you. Une chose est sûre, quelle que soit leur relation personnelle, Mingus adorait la musique de Duke Ellington. Et il la revisitera tout au long de sa carrière, enregistrant de ses thèmes et jouant des medleys étendus, comme lors de son concert à Monterey en 1964. Son approche à l'orchestration et l'arrangement ont été énormément influencées par lui. Et Mingus est aujourd'hui reconnu comme l'un des grands compositeurs américains du XXe siècle, ayant produit un vaste catalogue jazz, surpassé en termes d'ampleur que par celui du grand maître lui-même, dont il est le digne héritier.